música.
And liftoff. We have liftoff of Anne McLean, David St. Jacques, and Oleg Kononenko blasting through the Kazakh sky to the International Space Station.
Nous étions très nombreux devant la télé ce matin, partout au Québec, mais au Canada aussi, vers entre 6h et 7h. Donc, à 6h31, on avait prévu le lancement de la fusée Soyouz. Et j'espère de ne pas me tromper d'un terme que je vais utiliser. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais on a à partir du Kazakhstan, on a déployé une fusée pour aller rejoindre donc la Station spatiale internationale. Et à bord, pourquoi ça nous intéresse particulièrement? Bien, David Saint-Jacques, qui est un Canadien, dans le programme spatial depuis longtemps, bien, c'était le jour J aujourd'hui. Il s'envolait donc pour la Station spatiale. Et pour parler de tout cela, non seulement de ce qui s'est passé ce matin, ça s'est passé sans sanicroche, soit dit en passant, mais pour parler de l'événement de ce matin, mais aussi ce que ça veut dire pour le Canada, c'est avec plaisir que je vais aller rejoindre le directeur au développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne, Éric Dupuis, est mon invité. Bonjour, M. Dupuis.
Bonjour.
Merci bien d'être là pour tenter de nous expliquer ce qui s'est passé ce matin. On a vu le lancement de cette fusée sans sanicroche. On va commencer comme ça. Ça représente quoi? Pourquoi? Comment ça s'est passé ce matin? Expliquez-moi ça un peu.
Bien, ce matin, justement, vous l'avez dit, c'était un lancement sans anicroche, un lancement parfait. Au bonheur de tous, je vais vous avouer que nous, lorsqu'on regarde un lancement comme ça, on est toujours fébrile. Pendant le lancement, il y a des moments d'inquiétude pour tout le monde. Et lorsque c'est terminé, ben, ça a été un grand soulagement. Et maintenant, on est content parce que le travail peut commencer.
Mm-hmm. Le lancement, là, ou les périodes critiques lors du lancement, c'est quand? Est-ce que c'est dans la première 20 secondes, première minute, première heure? Qu'est-ce qui est plus critique?
C'est la montée en orbite. Donc, je vous dirais les 8 à 10 premières minutes lorsqu'on allume les fusées, lorsqu'il y a les différentes séparations d'étages. C'est toujours des moments critiques. Et maintenant qu'ils sont rendus en orbite, ils sont en train de planifier le rendez-vous qui devrait se passer autour de 12h30 avec la station spatiale, si tout va bien.
Mais c'est ça, c'est un voyage de 6 heures, seulement que 6 heures, pour franchir quelle distance?
En fait, la distance parcourue totale, c'est une longue distance parce qu'en 6 heures, ils vont avoir fait 4 fois le tour de la Terre, 4 orbites. Mais la station spatiale est seulement à quelques centaines de kilomètres d'altitude.
Ah oui? Quelques centaines de kilomètres seulement?
Oui.
OK, expliquez-moi
juste
ça.
Au-dessus de l'atmosphère terrestre.
OK, expliquez-moi ça. Si la fusée va tellement vite, si ça prend 6 heures, c'est quelques centaines de kilomètres. Expliquez-moi ça. Comment ça marche faire le tour de la Terre?
La fusée monte en orbite et ensuite doit tout simplement synchroniser sa trajectoire avec celle de la station spatiale. Donc, il y a quelques manœuvres qui doivent se faire pour s'assurer que la station spatiale et la capsule Soyouz, lorsqu'elles vont arriver, vont dans la même direction et à la même vitesse.
Wow.
Pour pouvoir faire un amarrage en douceur.
Hmm. Et là, quand ça va arriver, ça, les deux vaisseaux vont se fusionner ensemble quelques instants? Comment ça va se passer?
C'est exact. La capsule Soyouz va tout simplement s'arrimer à la station spatiale. Et puis ensuite, les deux vaisseaux vont être barrés ensemble, verrouillés. Il va y avoir des tests pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans la connexion. Et une ou deux heures plus tard, le SAS va s'ouvrir pour laisser David et ses coéquipiers rentrer dans la station spatiale. Et là, leur travail va commencer parce que David va être à bord pour une période d'un peu plus de 6 mois et il va être extrêmement occupé. Donc, il va entre autres faire son travail principal d'astronaute, qui est d'effectuer des expériences scientifiques à bord de la station. Et la plupart des expériences canadiennes que David va effectuer sont centrées sur la santé humaine, des expériences de science de la vie pour comprendre les effets du vol spatial sur le corps humain. Il va aussi devoir effectuer des tâches d'entretien de la station spatiale, parce que vous réalisez bien que c'est un laboratoire très complexe qui vole en orbite terrestre et qui demande d'être entretenu jour après jour. Et le principal défi que David et ses deux coéquipiers vont avoir dans les mois à venir, c'est que dans quelques semaines, l'équipage qui est actuellement sur la station spatiale va redescendre. Et au lieu d'être 6 comme c'est habituellement le cas, ils vont être que trois pour effectuer toutes les tâches à bord de la station.
Parce que présentement, il y a déjà trois personnes à l'intérieur.
C'est exact. Il y a déjà trois astronautes qui sont à l'intérieur de la station spatiale, qui attendaient l'équipage qui aurait dû monter le 11 octobre et qui a malheureusement pas réussi à se rendre en orbite à cause d'une défaillance. Donc aujourd'hui, l'équipage de relève qui arrive, c'est David et ses coéquipiers. Et comme j'ai dit, dans quelques semaines, ils vont redescendre. Et le prochain équipage à remonter, ça va seulement au printemps 2019. Donc, pendant plusieurs semaines, ils vont être seulement trois à bord de la station spatiale.
Les trois astronautes qui vont revenir, est-ce qu'ils vont utiliser la même fusée, le même véhicule, la même capsule que celle que David vient d'utiliser pour s'y rendre?
Ils utilisent un Soyouz. Il y a habituellement plus d'un Soyouz démarré sur la station spatiale et les capsules ont une date de péremption. Donc, on prend toujours la capsule. La capsule, c'est le vaisseau de sauvetage, le canot de sauvetage pour la station spatiale. Et donc, celle dont la date de péremption est la plus rapprochée est celle qui est utilisée pour la rentrée.
Et ça se fait comment, la rentrée? Moi, je me rappelle, quand j'étais petit gars à l'école, on regardait ça à la télé, un peu comme quand on regardait le Canada gagner contre la Russie en 72. On voyait ça, un genre de tagine presque, qui tombait dans l'océan puis on allait les récupérer. Ça se passe plus comme ça, là.
Ça se passe de manière assez similaire. Les vaisseaux Soyouz, plutôt que d'avoir une forme conique, comme ce qu'on voyait dans le temps d'Apollo et de Gemini, sont des sphères. Donc, c'est une sphère qui rentre dans l'atmosphère. Éventuellement, les parachutes s'ouvrent et puis la sphère atterrit. Contrairement aux Américains qui se posaient dans l'océan, les Russes, eux, se posent directement sur Terre. Donc, ça atterrit à quelque part dans les steppes de Russie.
Si je revenais à la station spatiale, on a de l'électricité là-dedans, on a un pouvoir, ça vient quoi, du soleil? Comment on alimente ça?
La station spatiale est alimentée en électricité par une série de panneaux solaires gigantesques. Faut réaliser que la grosseur de la station spatiale, c'est à peu près la grandeur d'un terrain de football.
Ah oui?
Et les panneaux solaires, il y a 8 panneaux solaires en tout, dont la largeur correspond justement à peu près à la largeur d'un terrain de football.
Wow.
Donc, ça alimente la station en électricité.
J'ai l'impression que ça capte aussi beaucoup l'imaginaire des gens de comprendre la vie à l'intérieur de la station. Le quotidien, là, comment, on y travaille, vous avez expliqué les travaux de recherche de David Saint-Jacques, entre autres, mais il y a une douche, il y a une salle de bain quoi privée, on est capable, est-ce qu'on est en apesanteur tout le temps, est-ce qu'on marche, est-ce qu'on flotte, comment on fait pour manger, comment on se fait pour avoir de la nourriture pour 6 mois, comment ça marche à l'intérieur?
Ben écoutez, les astronautes sont des êtres humains qui ont les mêmes besoins que tout le monde. C'est sûr, pour s'alimenter, c'est plus compliqué. On n'a pas de gravité pour retenir la nourriture dans notre assiette. Donc, toute la nourriture, généralement, est en pochette pour éviter que ça circule partout dans la station. Et on envoie des ravitaillements à intervalles réguliers. Donc, la nourriture est envoyée du sol vers la station. Lorsqu'il y a des différents véhicules qui montent vers la station pour rapporter soit de nouvelles expériences scientifiques ou soit justement les ravitaillements. Donc, notamment dans les prochains mois, on va avoir 2 expériences scientifiques canadiennes qui vont être envoyées, que David va devoir mettre en service, qui sont des expériences de sciences de la vie. Il y en a une qui est un vêtement intelligent qu'on appelle le biomoniteur. Une sorte de chandail équipé de capteurs qui va mesurer ses signes vitaux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui nous permet de faire un suivi non intrusif de l'état de santé. Et l'autre s'appelle le bioanalyseur, qui est un petit laboratoire portatif qui analyse des échantillons de fluides pour effectuer certains diagnostics pour l'état de santé.
Fascinant. Peut-être en terminant, vous venez de m'expliquer tout cela. Qu'est-ce que ça donne au Canada? Parce que j'imagine que c'est pas gratuit, cette affaire-là. On investit de l'argent dans notre programme spatial. J'imagine que les retombées, ça n'en vaut le coup. Ça veut dire quoi? Le résultat de ces recherches-là, ça va servir à quoi au Canada?
Écoutez, vous ouvrez ici une porte grande ouverte. Les retombées du spatial sont multiples. Qu'on pense au vol habité ou au vol non habité, Sans espace, il n'y a pas de communication par satellite, donc c'est difficile de communiquer avec les autres continents si vous n'avez pas de communication par satellite. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de télédétection, vous n'avez pas votre Google Street View avec les photos de la Terre vues de l'espace. Pour ce qui est des vols habités, un grand volet à ne pas négliger est l'inspiration qu'on a sur les prochaines générations. Aujourd'hui, David est parti et il y a plein de jeunes enfants qui regardaient ça d'un œil émerveillé puis qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour être astronautes. Ben, moi, ce que j'espère, c'est que ces jeunes enfants-là vont rester à l'école le plus longtemps possible et puis qu'ils vont s'orienter vers des carrières en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques pour pouvoir former la génération de demain.
Très intéressant. Hey, merci beaucoup d'avoir vulgarisé ça pour nous aujourd'hui. Merci d'avoir participé à l'émission, M. Dupuis.
Ça me fait plaisir.
OK, au revoir.
Au revoir.
OK, alors, Éric Dupuis, il est le directeur au développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne.